CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui, autour de la table, Monique Couteau, tu reviens pour faire suite à la chronique précédente, cette fois-ci sur le droit de se soigner qui serait en danger.
Oui, on peut même dire santé et l'état d'urgence.
Sera suivi de Clément Chassin. La dernière fois, tu nous as parlé de pommes de terre, de gâteaux aux pommes de terre. Et cette fois-ci, tu reviens avec un de ses ingrédients, les œufs.
Et oui, est-ce qu'on aura enfin la réponse à la question « Qui de la poule ou de l'œuf ?»
Enfin, on terminera l'émission avec un peu d'art et de culture avec Alain de Frémont qui va nous parler des informations un peu particulières qu'on peut retrouver lorsqu'on va au cinéma, qu'on va regarder un film et toutes ces informations qui défile au début ou peut-être à la fin et qui semble toujours un peu abstrait.
Voilà. Oui, effectivement, quand vous êtes assis dans votre fauteuil et que le film commence, vous voyez marqué visa d'exploitation avec un numéro en général à 6, voire 7 chiffres. Et bien, je vais vous expliquer d'où vient ce visa.
On verra ça à la fin de l'émission, mais tout de suite, dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Du quotidien avec Monique Couteau.
Depuis 40 ans, les gouvernements successifs, sur fond de libéralisme économique, en ne cessant de cultiver l'idée que la santé est un coût et non un investissement, ont fait imploser notre système de santé publique en l'ouvrant largement au marché financier à la recherche de juteux placements.
Alors, quel constat concret peut-on faire sur la dégradation de notre système de santé ?
On peut tous faire ces constats. 7 millions de Français vivent sans médecin traitant. Les urgences de l'hôpital public sont régulièrement saturées. Les centaines de malades restés sur des brancards pendant des heures et des heures, parfois au péril de leur vie, en témoignent. Les personnels médicaux et paramédicaux épuisés, sous-payés, fuient le service public. Les fermetures de lits se poursuivent, au mépris des besoins. 43 500 lits d'hospitalisation complète perdus depuis 2013, de nombreuses maternités de proximité fermées, et on peut raisonnablement penser que c'est un des facteurs de l'augmentation du taux de mortalité infantile en France, qui fait partie aujourd'hui des plus mauvais scores en Europe. Les délais, vous l'avez tous expérimenté, les délais pour obtenir des rendez-vous médicaux s'allongent chaque jour un peu plus. Ça craque de partout, sauf dans le secteur privé lucratif qui n'a jamais enregistré autant de profits. Les dépassements d'honoraires explosent, les laboratoires pharmaceutiques se gavent et créent des pénuries. La logique de profit a conduit au scandale révélé dans les maisons de retraite ou de crèches de groupes privés. Les mutuelles augmentent leurs tarifs. Les déserts médicaux s'étendent désormais à toute la France. 87% du territoire est concerné. Et pourtant, le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques, les défis liés aux problèmes environnementaux et au réchauffement climatique, le coût croissant des traitements, autant de raisons de repenser une politique de santé qui réponde à ces défis et aux besoins de la population.
Alors d'où vient ce désastre ?
Il vient de loin, comme on l'a évoqué dans une chronique précédente sur la sécurité sociale, mais il y a quand même quelques dates précises à repérer. Le ministre de la Santé de 2002 à 2004, Jean-François Mattéi, ministre de Chirac et Raffarin, a supprimé l'obligation de garde pour les médecins libéraux et instauré la tarification à l'acte pour les hôpitaux. La fin des permanences de soins assurées par les médecins généralistes a eu de graves conséquences, les urgences devenant le seul endroit pour être soigné 24 heures sur 24, et sans mesure de substitution, la fréquentation de ces services a explosé. Quant à la gestion des hôpitaux sur le principe de la tarification à l'acte, le choix s'est porté vers les soins les plus rentables, délaissant des pans entiers d'activités plus coûteuses mais indispensables. La logique comptable fait des ravages. On peut ajouter Roselyne Bachelot, ministre de la Santé de 2007 à 2010 sous Sarkozy et Fillon, qui avait pour mission de réduire les dépenses de santé de 12 milliards d'euros. Elle a créé les agences régionales de santé, afin que l'État pèse encore plus fort sur les décisions de gestion des établissements, les menaçant de suppression de leur agrément s'ils ne mettaient pas en œuvre les directions ministérielles. En ce qui concerne la pénurie de médecins, le numerus clausus qui limite le nombre de médecins a été mis en place en estimant que c'était l'offre de soins qui provoquait l'inflation des dépenses et non la demande. Résultat, 8600 médecins formés en 1972, 3500 en 1992, de 1988 à 2003. Mise en place d'un mécanisme d'incitation à la cessation d'activité, forme de pré-retraite, pour les médecins libéraux. Ça a permis le départ de 18 000 médecins à partir de 56 ans. En 1986, on peut ajouter l'invention du secteur à honoraires libres, dit secteur 2, qui a entraîné l'augmentation de la rémunération des médecins, mais sans grever le budget de la Sécu, mais qui a contribué à la diminution du nombre des consultations accessibles financièrement. Et enfin, la mise en place du parcours de soins en 2006, qui a eu aussi pour objectif de limiter le nombre d'actes.
Alors ça, il suffit d'aller voir sur Doctolib, je ne sais pas si vous utilisez Doctolib, prendre des rendez-vous, c'est infernal. Moi, je voulais prendre un rendez-vous chez un médecin, enfin spécialiste. Et le prochain rendez-vous que j'ai en secteur 1, c'est en fin août. Et en secteur 2, j'aurais pu l'avoir dans 2 semaines. Mmh. Ouais. Alors, vu les honoraires, je vais attendre un petit peu. Alors, par rapport au manque de médecins, y a-t-il d'autres facteurs que celui des numerus clausus ?
Oui, on peut dire qu'il y a des causes multiples, même si le numerus clausus est le premier responsable. On peut ajouter qu'il y a une modification des conditions d'exercice, à tel point qu'on estime aujourd'hui que pour remplacer un médecin qui part à la retraite, il en faut au minimum 2 nouveaux. Il y a aussi donc la sociologie qui change, la féminisation, l'aspiration à un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et puis le poids des contraintes administratives. On estime à 20% du temps du médecin nécessaire pour remplir les tâches administratives qui leur sont ajoutées régulièrement. Le système actuel forme proportionnellement plus de spécialistes que de généralistes, donc ça ne répond pas au problème du médecin traitant. Les annonces récentes du gouvernement annonçant la suppression du numerus clausus sont insuffisantes pour changer la donne, car le nombre de médecins formés n'est plus fixé nationalement, mais par universités, qui sont, elles, confrontées à la baisse de leur budget et ne disposent ni des moyens humains ni des moyens financiers pour augmenter le nombre de places. À l'heure actuelle, on estime qu'il faudrait au moins 16 000 médecins formés par an. On atteint péniblement 12 000 et la question de la répartition de l'installation des médecins sur le territoire n'est pas réglée. Il est à noter aussi, pour un autre aspect, que 2 membres de l'Académie de médecine proposent la création dans chaque faculté de médecine d'un département de philosophie et de pédagogie de la santé pour réhumaniser la médecine, car les progrès techniques, les évolutions scientifiques et la gestion comptable ont eu des conséquences vécues douloureusement par de nombreux patients qui ont souvent le sentiment d'être devenus simplement des clients.
Alors, quelles pourraient être les solutions pour satisfaire ces besoins ?
Outre augmenter les moyens des universités et des hôpitaux publics, il est intéressant de promouvoir les centres de santé publics, qui sont des structures pluriprofessionnelles de proximité, dont le financement est assuré par les collectivités ou par les mutuelles, conventionnées par la Sécurité sociale, agréées par l'ARS. Les professionnels sont salariés, appliquent le tiers payant intégral sans dépassement d'honoraires. Les médecins sont libérés des tâches administratives et de gestion qui sont effectuées par des personnels dédiés. Ces centres peuvent intégrer un plateau technique, radiologie, biologie. Ils peuvent être en lien avec un hôpital, une structure d'hébergement pour personnes âgées. C'est un maillon essentiel entre les patients et l'hôpital. C'est un centre de santé public peut commencer avec un nombre restreint de médecins, mais ensuite s'étendre, être élargi et être élargi aux métiers paramédicaux, par exemple. Il en existe déjà 2500 en France, dont 582 pluriprofessionnels, et c'est là certainement une voie d'avenir.
Concernant le centre médical qui se situe sur la place du marché de Chaville, comment cela s'est-il passé ?
Ça a été le débat du mandat, un des grands débats du mandat précédent, parce qu'effectivement tout le monde avait constaté qu'on allait avoir un très gros problème vu le nombre de médecins qui devaient partir à la retraite. Donc la mairie de son côté avait été saisie du problème et voulait s'en emparer. Et nous, de notre côté, je parle à l'époque du Front de Gauche, hein, mais je pense, et de citoyens et citoyennes, on avait déjà le projet de proposer un centre de santé publique. Ça n'a pas été possible, malgré un gros travail de pétition et un gros travail conviction, mais ça a quand même permis une évolution du centre médical de santé tel qu'il était pensé au départ. Parce que bon, ce qui a été quand même pris, qui a été acté par la mairie, c'est que comme on aidait le centre de santé sur le loyer pendant toute la première année, qu'on payait la moitié d'un secrétariat administratif, il fallait que les Chavillois aient également les bénéfices des bénéfices. Et ce bénéfice, on a demandé que tous les médecins soient conventionnés secteur 1, qui pratiquent le tiers payant et qu'ils acceptent de se déplacer à domicile, parce que ça aussi, c'était devenu un vrai problème. Donc là, on est dans une solution intermédiaire, hein, c'est pas le centre de santé publique qu'on souhaitait, mais on peut... Mais ça veut dire la mobilisation, ça veut dire que les citoyens, les citoyennes s'emparent de ces sujets-là. La question se reposera certainement bientôt, parce que déjà, le centre médical de santé, il est déjà très plein, hein, et un certain nombre de médecins ne prennent plus de nouveaux patients. Donc c'est une réflexion pour les années à venir.
Très bien, merci beaucoup Monique. La santé, un sujet qui nous intéresse toutes et tous et dont la prise en charge doit pouvoir bénéficier à toutes et tous sans discrimination financière ou territoriale. De nombreuses associations citoyennes, syndicales, politiques se mobilisent pour faire entendre les demandes et les besoins. Tout de suite, on passe à Clément Chassin. À table avec Clément Chassin.
Alors, est-ce que vous savez à quoi correspondent les numéros sur les œufs ?
Les
petits chiffres qui sont...
Oh, il y a quoi, la date de péremption
Oui, alors... C'est le nombre...
Plein air, il y a aussi 3...
Le premier numéro, ça, c'est 0, 1, 2, 3...
C'est plein air, ça, c'est 3, c'est plein air, enfin, un truc dans le genre.
Alors, 0...
0, c'est industrie, enfin, c'est en batterie.
C'est mieux.
Ah, donc 0, c'est en plein air.
0, c'est plein air et bio.
Et bio. Ah. Le 2, c'est en plein air, et le 3, c'est en batterie.
Il y a le 1 et le 1.
Ah, merde.
Oublie le 1.
Alors, 0, c'est en plein air et bio.
Ouais. Le 1 en plein air et pas bio. Et le 2 en batterie.
C'est au sol.
Au sol.
Ah. C'est poule élevée au sol.
D'accord. Et le 3 au ciel, a priori.
Poule élevée
au plafond. En cage.
Oh là là.
Sympa.
Bon.
Ensuite, on a la date de péremption.
Alors, ensuite, FR.
France, c'est le territoire.
Si on est des œufs français.
Oui.
Et 3 numéros qui indiquent l'élevage et 3 numéros qui indiquent le bâtiment.
D'accord.
Ah oui, c'est précis. Ah oui, de géolocaliser. Oui, d'accord. S'il y a un problème, on sait quel poulailler on fait.
Voilà. Et donc, ça n'a rien à voir avec le nombre d'œufs pondus par poule pendant toute sa vie.
Non.
Non, parce que là, on est à 3 millions déjà.
Et non, puis faudrait. Qui voudrait aller compter derrière chaque poule?
Oui.
Oh, voilà. Tout est possible.
Voilà.
Avec l'intelligence artificielle, tout est possible.
Bien sûr. Du coup, moi, je vous ai ramené mes œufs.
Et on va faire une omelette.
Et du coup, moi, j'ai pas de numéro sur mes œufs.
Ah.
J'ai pas de marquage.
Parce que
sur mes
ce
œufs.
Sont les œufs de la ferme.
C'est les œufs du
poulailler de Chaville.
Poulailler là.
C'est ça, parce que c'est des œufs que j'ai ramassés moi-même, tout seul, avec mes petites mains, à Chaville.
Ah.
De mes gentilles poules qui sont élevées en plein air et sans aucun traitement.
Incroyable.
Là, je fais.
Donc c'est zéro, toi. Toi, ce serait zéro.
Oui.
C'est double zéro, triple
c'est encore
zéro.
Moins, c'est moins un, toi.
C'est voilà. Moi, c'est en fait, c'est même pas des œufs.
Si, c'est des œufs
commercialisés. C'est pas des œufs.
Mais il y en a des blancs là. Qu'est-ce que c'est quoi là?
C'est des œufs.
Bah, ils sont d'ici, ils sont de Chaville, les blancs aussi.
Ils sont tous de Chaville.
Je croyais que c'était que dans les films américains, moi, les œufs blancs.
Non. Alors, effectivement, j'ai plusieurs œufs là. Alors, ils sont pas calibrés. Il y a différentes formes, il y a différentes couleurs, il y a différentes tailles.
Oui.
Par contre, ils sont tous très bons. Voilà. Alors, les formes, les couleurs, les tailles, ça va dépendre de la race de la poule.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Voilà. Ça dépend pas. Alors, ça va dépendre un petit peu aussi de ce qu'elle mange.
Mais
ça
aussi
peut jouer un petit peu sur la couleur.
Oui.
Principalement la race.
Ouais. Donc celles qu'on connaît traditionnellement, les Belges, là, il y a combien de races?
Alors nous, on a 7 races de poules.
Ah oui, d'accord. Il y en a combien en tout?
Je crois qu'il y en a plein.
Ah oui, c'est vrai.
Alors celle-là, on l'a pas.
On en est à combien de poules sur Chaville?
Alors sur Chaville, en tout. Oui. Beaucoup.
Ah c'est vrai, je sais jamais.
Alors il y aurait
quoi, une cinquantaine.
Il y aurait au moins 60 personnes qui auraient, enfin 60 foyers qui auraient des poules.
Ah oui, d'accord.
Avec plusieurs poules à chaque fois.
D'accord.
Donc ça fait.
Ouais.
Voilà. Ça, c'est pour les poulaillers qui sont recensés.
Toi, t'en as combien?
Alors, moi, personnellement, j'en ai pas.
Ah. Donc,
le
t'as volé les œufs.
On va en parler. Parce que, bah oui, non, parce que moi, j'habite en appartement. Alors,
d'accord.
Comment je fais? Est-ce que je mets des poules sur mon balcon et j'embête mes voisins? Non.
Ah, mais je croyais qu'il y avait. Tu étais en train de dire qu'il y avait un poulailler où ils avaient rassemblé toutes ces poules.
Alors, j'habite en appartement. Donc, soit je mets des poules sur mon balcon, j'embête les voisins.
Ah, c'est compliqué.
Mais non, c'est pas bien pour les poules parce qu'elles font pas bien sur le.
Tu serais sur du 3, là.
Voilà, donc.
Ou du 4 même, parce que tu serais même pas au sol, tu serais sur un balcon.
Voilà. Donc, moi, je fais partie de Cocotte Chaville.
Ah,
voilà.
Parlons-en.
Le poulailler associatif.
Très
de
bien.
Chaville. Voilà, qui se trouve dans la Sente de la fontaine Henri IV. Voilà, juste en dessous de la passerelle des arts et la mosquée. Voilà, c'est dans la Sente qui monte. Voilà. Donc, parce que, effectivement, donc à Chaville, on a donc une association qui s'appelle Cocotte Chaville et qui gère un poulailler associatif. Donc, c'est un poulailler et on est plusieurs, enfin, on est même assez nombreux, du coup, à s'en occuper. Voilà, donc ça nous permet d'avoir 7 poules. Ce qui est quand même pas mal, sur un grand terrain. Du coup, ça permet d'avoir un grand terrain. On a vraiment privilégié le bien-être des poules. C'est pour ça qu'on n'essaye pas d'en avoir plus. On pourrait en mettre plus, mais on se limite à 7 parce que c'est déjà très bien. Ça leur permet d'avoir de la place. Elles sont en pleine terre. Elles peuvent gratter. Elles sont en plein air toute la journée. Voilà, donc elles grattent, elles se promènent librement, elles embêtent les vers de terre, elles ont des arbres pour se mettre à l'ombre l'été, elles ont des plantes pour picorer. Voilà. Et à part d'avoir quelques œufs,
comme
ce
Monique.
Qui est quand même toujours sympa,
qui a aussi des plantes pour picoler. La menthe.
Voilà, donc
j'ai cru qu'il allait me traiter de poule en plus. Je me demandais ce qu'il allait sortir.
Qui
prend
des œufs. donc ce poulailler, donc à part de récupérer quelques œufs, mais c'est pas le but premier et vraiment on ne pousse pas les poules à pondre, c'est pas un élevage intensif.
Oui, oui.
Voilà, surtout qu'en fait dans les élevages de poules pondeuses, au bout d'un an, et demi, eh ben, elle passe à la casserole parce que c'est plus rentable.
Ah, un an et demi,
ça va très vite. Nous, on s'attache aux poules, on les aime bien et du coup, on a décidé de les garder, de les laisser vieillir. Ah. Donc effectivement, elles pondent de moins en moins, elles vieillissent tranquillement.
Alors ça veut dire quoi? Ça pond combien par, mettons, là, dans leurs plus belles années
Ça dépend. Donc on a 7 poules, donc là, une bonne journée, on va avoir 6 œufs. Voilà.
Ah, donc un œuf par poule, quoi.
Presque.
Un œuf par jour.
Quasiment, presque.
Ah, c'est pas beaucoup.
Quand ça va. Et bon, là, on les a eues en 2021, les premières. Donc, voilà, elles ont déjà 4 ans, un peu plus de 4 ans. Donc,
d'accord. Parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune, donc on avait des poules aussi, et ça pondait, il me semble que ça pondait quand même 3-4 œufs, quoi. Ça sortait comme ça, et pas qu'un seul œuf.
Un œuf par jour.
Ah ouais, je me suis fait avoir, alors elles trichaient. Elles trichaient entre eux, elles pondaient au même endroit, alors.
Oui, ou alors elles allaient au supermarché.
Ah ouais.
Les boîtes.
Elles effaçaient les chiffres.
Un œuf par jour, c'est déjà bien.
Ah oui, d'accord. Moi, j'en voyais. Ils ont découvert 3-4 quoi.
Quand elles ont. Alors, nous, effectivement, là, je
on leur laissait peut-être une semaine, ceci dit.
Oui, c'est ça. Nous, on passe tous les jours.
Oui,
donc,
oui.
Effectivement, je te dis, les bonnes journées, on va avoir 5-6 œufs.
Ah,
voilà.
Ouais.
Quand il fait très chaud, elles n'aiment pas, donc on va avoir moins. Quand il fait froid, pareil, elles n'aiment pas. Cet hiver, alors on a vu qu'il faisait froid, et en plus, c'est là où on a vu qu'elles commencent à vieillir. On a eu presque un mois où on n'a eu aucun œuf. Pendant
Mais c'est à cause de la vieillesse ou de la température?
De la température et que les années précédentes, même quand il faisait très froid, on avait toujours un œuf ou deux œufs quand même par jour. Là, on a eu presque un mois où on avait plus de deux.
Ils ne produisent pas beaucoup.
Hein. Et voilà.
C'est un vrai problème, ça.
Alors, les œufs, on se les répartit entre bénévoles parce que les règles, effectivement, pour commercialiser les œufs, tout ça, effectivement, il faut qu'il y ait un suivi très pointu. Ouais. C'est très compliqué. Donc, on ne commercialise pas les œufs.
Oui, non, là,
donc, la personne qui passe récupère les œufs. Et puis voilà.
Donc, mettons, tu dis qu'il y a 5 œufs par jour. 5 ouais. ou 6. Mais ouais. Alors, ça veut dire que moi, demain, j'y vais, je prends les œufs le premier, c'est pour moi. Merci, au revoir.
Ouais.
Ok, d'accord. Ouais, c'est
non, alors, on s'organise à tour de rôle, on a un planning parce qu'il faut quand même passer.
Mais n'importe qui peut venir ou c'est que les adhérents.
C'est
ah oui,
adhérents.
Et vous êtes combien, tu l'as dit au début?
Je ne l'ai pas, j'ai pas encore dit, mais j'ai plein de choses à
j'anticipe,
dire.
J'anticipe. Hein,
les adhérents de l'association, effectivement, et en fait, on a un planning. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être nombreux parce qu'il faut passer tous les jours. Clairement.
Oui, d'accord.
On essaie d'avoir un passage dans la journée pour leur donner à manger, pour s'assurer que tout va bien, pour nettoyer le poulailler. Ouais. Parce qu'effectivement, on a pris partie du bien-être des poules et d'essayer de ne pas traiter vraiment au minimum. Donc
mais
on traite
nettoyer.
Un petit peu avec de la terre de diatomée, donc ce qui est parfaitement naturel. Mais c'est tout ce qu'on fait. Et si on veut pas qu'elle soit malade, il faut qu'on nettoie régulièrement. Donc, effectivement, le plus simple, c'est de nettoyer tous les jours. Et il faut qu'on passe le soir, s'assurer qu'elles sont bien rentrées, qu'elles sont bien couchées, que le poulailler est bien fermé. Donc, il y a des portes automatiques qui se ferment.
Ah oui, d'accord, ils ont des badges, quoi. Et est-ce que.
Non, mais voilà, il y a un petit détecteur de luminosité. Ça
ah oui, bien, c'est.
Il
y a beaucoup de choses. Hein. Ils ont le chauffage et la clim aussi, alors.
Ah non, elles ont des plumes. Elles ont des plumes.
C'est vrai.
Et donc, elles changent de. Elles muent, entre guillemets. Mais on les voit effectivement perdre leur plumage d'hiver quand il commence à faire chaud et donc avoir un plumage beaucoup plus léger. Donc il y a un moment où on retrouve des plumes partout parce qu'elles perdent les plumes d'hiver. Et au début de l'hiver, inversement, on les voit perdre les plumes d'été. Et alors là, elles se font un plumage où elles sont d'un coup, elles deviennent énormes. Et voilà. Et après, quand elles se serrent bien sur leur perchoir, là, je peux te dire, elles se tiennent chaud.
Et est-ce que vous leur donnez quelque chose en particulier pour la construction de la coquille d'œuf?
Alors, on récupère les coquilles d'huîtres.
Ah là, c'est ce qu'on donnait aussi.
Alors, on les écrase. Alors, c'est passionnant d'écraser des coquilles d'huîtres.
Nous, on donnait des concassés de coquilles d'huîtres, de moules et du gravier.
Oui, alors les coquilles d'huîtres, alors on peut leur donner des coquilles d'huîtres, des coquilles d'œufs aussi, tout simplement.
Oui, oui.
Voilà, enfin tout ce qui est calcaire. Tout ce qui est calcaire. Le gravier, alors elles mangent du gravier ou des
concassés,
petites pierres,
tout petit.
Parce qu'en fait, elles n'ont pas de dents.
Ah bah je croyais que les poules avaient des dents.
Pas encore.
Non, c'est bientôt qu'elles en ont.
Et donc, quand les poules
auront des dents,
en fait, pour mâcher les aliments qu'elles mangent, il faut qu'elles ingèrent un peu de terre ou un petits cailloux. Et ça, ça va mâcher les aliments dans le
broyer.
Dans le tube broyer, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'elles mangent effectivement
des petits
cailloux.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Donc ce que je disais, donc on a un poulailler associatif, donc ça permet d'avoir quelques œufs, c'est pas le but premier, ça nous permet donc de découvrir les poules. Donc ce que je disais, on a 7 races différentes aussi, ça permet vraiment de voir la diversité, ça te permet de découvrir l'élevage des poules, effectivement, c'est vrai qu'on en apprend plein de choses, et c'est là qu'on se rend compte qu'on s'est bien éloigné de tout ça et qu'on a perdu tout un savoir. Il y a tout un volet pédagogique, puisqu'on reçoit régulièrement
des enfants, des écoles maternelles,
des crèches, on reçoit des groupes d'assistantes maternelles aussi avec les tout-petits, voilà, qui découvrent les poules, donc ça permet vraiment de reconnecter aux poules à la nature et ça permet aussi de faire de la réduction des déchets puisque les poules ça mange alors on leur donne des graines. Elles mangent ce qu'elles trouvent sur le terrain, elles passent leur journée à gratter, à fouiller, à manger des vers, des insectes,
les fans de légumes.
Elles mangent des fans de légumes, elles mangent du vieux pain, voilà. Et elles mangent à peu près un peu de tout. Alors, il y a des choses qu'elles ne mangent pas. Alors, les pommes de terre crues, les oignons, l'ail, les agrumes, tout ça, elles ne vont pas le manger. Non, mais c'est... Il y a des choses que voilà, les peaux de banane et les avocats, c'est mauvais pour elles, donc faut éviter. Mais sinon, alors les fans, typiquement, elles adorent, voilà. Et du coup, ça nous permet effectivement donc d'être dans la réduction de déchets. On récupère aussi des invendus de supermarchés. Donc là, cette semaine, on avait récupéré une caisse de.
Ah, vous avez des contrats avec eux ou vous venez un peu?
Oui, ça, ils nous connaissent
bien, ça.
En tant qu'association. Du coup, ça permet de certains supermarchés avec lesquels on va récupérer des invendus.
Très bien.
Là, par exemple, cette semaine, on leur a donné des
œufs.
Et nous, on a récupéré des radis. Et ils adorent les radis. Donc, voilà. Aussi, des fois, on passe en fin de marché et on récupère les poubelles du marché. Là, cette semaine, j'ai récupéré une cagette complète de fans de carottes.
Ah oui.
Sont jetés. Bah oui, au marché, ils coupent les fans de carottes.
Oui, donc ils ne manquent pas de bouffe, quoi.
Et les poules, elles adorent les fans de carottes. Donc, elles étaient ravies. Voilà.
Elles étaient radis. Alors, c'est quelle espèce les blanches?
Alors l'espèce, c'est toutes des poules.
Non, enfin pardon, oui, quelle variété.
Et quelle race de poules? Je ne saurais pas te dire exactement parce que je ne suis pas derrière les poules pendant qu'elles pondent. On les laisse tranquillement, elles vont pondre. On attend qu'elles soient sorties tranquillement parce que quand elles se pondent, il faut les laisser tranquilles. Nous, vraiment, on privilégie le bien-être. Voilà. Donc on récupère les œufs après. Donc je ne saurais pas te dire à quel.
Oui, mais en tout cas, c'est des poules américaines parce qu'en Amérique, ils ont
des œufs très blancs. Oui, parce qu'ils les.
Il les nettoie à la javel.
Il les passe. À la javel. Je ne sais plus ce qu'il passe comme produit, mais enfin.
Non, mais c'est pas ça qui les blanchit.
Ils blanchissent les œufs. Oui, oui.
Ils blanchissent les coquilles.
Oui.
Mais là, elles sont blanches, là, sur la table.
Mais celle-là, c'est naturel.
Elle est naturellement blanche.
Mais pourquoi ils ne prennent pas ces poules qui font des coquilles naturellement
blanches? Parce que ce n'est pas forcément les plus grosses pondeuses.
Ah, d'accord.
Mais voilà, non, nous, on a des races différentes. Alors, on n'a pas pris que des races pondeuses. On a pris.
Est-ce que vous avez des poules soie?
Des poules
non,
quoi
on a pas des poules soie.
Elles ont du bleu.
Les chinoises là.
Non. Elles ont du bleu là dessous.
Oui, du bleu en
dessous. Et quand tu les caresses, c'est doux. Leurs plumages sont doux comme de la soie. On les appelle des poules soie.
Oui. Elles ont des plumes particulièrement douces. Après, toutes les poules ont un plumage très doux.
Oui.
J'aime bien
c'est vrai.
C'est quelle famille alors les poules?
C'est de quelle famille?
Les
gallinacées.
Voilà. Alors, dans les poules qu'on a, on a une poule de Houdan.
Ah tiens.
Voilà, une poule donc noire.
Ben, comme
et
à la mairie, nous aussi, on en a d'Houdan.
Voilà, et donc, c'est des bonnes pondeuses. Et c'est une variété régionale. C'est une variété régionale. Et c'est quand même aussi intéressant de dire
locale.
Que ça permet de sauver des variétés régionales. Donc et ce qui est très rigolo avec les poules de Houdan, c'est qu'elles ont des plumes sur la tête. Elles ont
Oui, c'est la même. On parle de la même espèce.
On parle de la même espèce. Voilà. Et on a aussi une poule qui est un coucou de reine. C'est la race de la poule. Donc il y a une race bretonne, ça pour le coup c'est pas local, mais c'est une race qui est pas encore en voie d'extinction, mais qui se raréfie beaucoup. Et du coup, effectivement, on s'est dit, c'est intéressant de montrer aussi de sauver des races. Voilà. Donc, on peut donner plein de choses aux poules. Donc, effectivement, je disais des salades, des légumes. Faut pas oublier, elles mangent aussi de la viande. Ouais, elles peuvent manger les déchets de poissons, de fruits de mer. Elles mangent aussi des œufs. Ça nous est arrivé, ça m'est arrivé des fois en ramassant les œufs, t'en fais tomber un sur le terrain.
Ah oui.
Elle vient le manger. Voilà,
ça se précipite sur le jaune d'œuf.
Voilà, c'est comme ça. C'est les poules,
c'est impressionnant.
Voilà, et alors si tu veux leur faire plaisir, tu leur amènes du gras de jambon ou des croûtes de fromage.
Alors là,
elles se précipitent.
Ah oui, c'est repas.
Elles adorent. Voilà.
Bon, c'est bien, on va faire.
Et donc en échange, elles nous donnent beaucoup d'amour, quelques œufs et des fientes.
Ah!
Non, mais parce que non seulement ça permet de réduire les déchets, mais en plus,
de l'engrais.
Ça produit
exactement.
Non, mais c'est quand même...
l'engrais naturel.
Exactement.
Donc vraiment,
nous, c'est pareil.
C'est hyper intéressant.
On est allé la fiente de poule dans le potager, comme à la place du crottin.
Alors tu peux l'étaler comme ça, ou sinon.
On dilue.
Tu la dilues.
Oui, c'est fort.
C'est vachement puissant.
On l'a laissé reposer dans un bac. Eh bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon des poules de Chaville.
Des poules, voilà. Et du
d'ailleurs...
coup, ça permet d'avoir des bons œufs. Et du coup, j'en profite pour dire qu'il y a un Facebook. Vous cherchez Cocotte Chaville sur Facebook. Vous trouvez l'association. Sur le Facebook, vous retrouverez l'adresse mail, tout ça, voilà.
Est-ce qu'il y a des projets là futurs? Parce que tu disais... C'est combien de mètres carrés vous avez? 50,
Non, je ne sais plus.
Enfin, un certain mètre carré, une parcelle pour 7...
parcelle tout en longueur.
Cette poule, voilà. C'est ça.
Ouais.
Est-ce que vous, si demain vous aviez une deuxième parcelle, est-ce que vous seriez partant pour avoir cette poule supplémentaire?
Alors on verra. Il y a des projets. On est en train de travailler. Il y a effectivement un projet pour monter.
C'est bien de disperser aussi un peu les parcelles dans chaque ville pour les gens, les avoir à côté.
Donc il y a un projet qui est en train de se monter pour faire un autre poulailler ailleurs.
Ouais, ouais.
Et du coup, nous, on accompagne effectivement ce projet. Après, il faudra voir, est-ce que ce sera l'association Cocotte-Chaville qui chapeautera les deux, ou est-ce qu'on va créer une deuxième association ou quoi. Après, c'est bien aussi que chaque poulailler ait un groupe de personnes.
Ouais, bien sûr.
Voilà,
ouais,
ça
oui,
permet
c'est
aussi
ça.
Que selon
on
les
va
quartiers,
faire des poulaillers
gens,
de quartier, des choses comme ça, ce serait drôle, ça.
Et puis finalement, il y a aussi beaucoup de gens à Chaville qui ont des petits bouts de jardin. Ouais. Alors nous, on a un bon terrain, donc on a 7 poules, mais sur un petit bout de jardin, tu peux mettre 2-3 poules.
Oui,
c'est
oui.
Déjà ça. Hein.
Ouais. Alors nous, on avait l'expérience là, là où j'habite près des poules. Il y avait des poules chez le voisin, donc qui venaient chez nous, parce que c'est voilà, il y a pas de mur, mais elles ont été bouffées par des fouines et par des animaux qui
des
descendaient
aussi,
de la forêt.
Hein.
Et on les a trouvées le cou tranché.
Ça, c'est les fouines.
Ah,
les
tranché fouines. Quand même le cou tranché, ça c'est, un coup, c'est plus un couteau que.
Non, c'est les fouines. Les fouines.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, oui.
Et donc, elle se balade avec des couteaux alors.
Non, en fait, la fouine va décapiter la.
Oui, oui.
Ah oui, non, c'est ça.
Et la vue du sang va créer une réaction dans le. Non, la fouine, elle va devenir un peu
folle.
Ah, waouh!
Elle va décapiter, effectivement.
Intéressant.
Plein de poules et elle va les laisser sur place.
Oui, c'est ça.
Si c'était un renard,
oui, il l'aurait emporté.
Il prend une poule, il la mange,
il la bouffe,
il en prend ceux qui mangent et c'est tout. Il ne va pas décapiter d'autres poules pour plaisir.
Et du coup, voilà.
Il n'y a plus. Voilà. Alors, nous, c'est pour ça que je disais, on fait un passage le soir pour s'assurer qu'elles sont bien rentrées dans un poulailler qui est complètement fermé, grillagé. Et quand je dis qu'il est complètement grillagé, qui est grillagé et le grillage est enterré de 60 cm
si, oui,
dans
parce
le
que
sol,
sinon ça passe en, les
parce
animaux
que les renards
s'accreusent
il a fallu qu'on enterre le grillage
c'est compliqué
il faut respecter quelques règles mais en respectant quelques règles on arrive à pas avoir trop de soucis.
Eh bien merci beaucoup, donc je vous invite à rejoindre l'association
Cocotte-Chaville sur Facebook, Cocotte-Chaville, voilà, vous verrez des jolies photos des poules et tout ça. Donc.
Reçu, merci beaucoup Clément. On passe enfin à la chronique d'Alain Defrémont qui, rappelez-vous, va nous parler des informations particulières, techniques qu'on retrouve lors des génériques de début et de fin de chaque film.
Avec Alain Defrémont.
Oui, bonjour. Alors, au cinéma, quand on voit apparaître sur l'écran le visa d'exploitation numéro un tel, ça ne vous passionne pas particulièrement. Et puis, vous allez vous demander pourquoi je me suis posé cette question. Eh bien, parce que sur proposition de l'Union nationale des associations familiales, le ministère de la Culture m'a nommé membre de la commission de classification des œuvres cinématographiques en avril 2025.
Excellent. Alors, bravo déjà.
Félicitations.
Ça fait combien de temps? Déjà plus d'un mois que tu.
Deux mois que c'est.
Nous on le savait, mais félicitations. C'est quand même grâce à Radio VCO. à la chronique.
J'ai fait des chroniques ici, mais j'en fais aussi toutes les semaines à l'UFAL. Donc,
félicitations.
Alors voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu clairement tout ça. Tous les jours, sauf le samedi et le dimanche, mais sinon tous les jours, il y a des spécialistes et des professionnels du cinéma qui visionnent tous les films qui vont sortir dans les salles obscures. L'année dernière, ils en ont visionné 1876, plus un nombre incalculable de bandes-annonces, de façon à se prononcer sur le contenu de ces films. Alors ça peut être, ça c'est le comité, moi je ne suis pas dans le comité.
Ah, tu nous expliqueras la nuance.
Oui, tout à fait. Alors, ce comité, il est tous les jours au boulot, il se tape 5 ou 6 films par jour, et en avant. Après, ils se réunissent par petits groupes, puis chacun des petits groupes nomme un rapporteur, qui ensuite dit, on propose un avertissement. Sachez qu'il y a des scènes qui sont susceptibles de troubler un public sensible ou de jeunes enfants, ou bien l'interdiction au moins de 12 ans, l'interdiction au moins de 16 ans, une interdiction au moins de 18 ans, ou alors tout public. Si c'est tout public, c'est réglé. Si ce comité s'est prononcé unanimement pour un avertissement, ou moins de 10 ans, ou moins de 12 ans, ou moins de 16, ou moins de 18, il n'y a pas de problème. Il suffit que dans ce comité, où il y a un certain nombre, qui m'a échappé, de personnes, qu'il y en ait au moins deux qui ne soient pas d'accord avec les autres, pour que ce soit retoqué, et à ce moment-là, le comité envoie le film à la commission de laquelle je fais partie.
C'est un recours, quoi.
Cette commission de classification, elle fonctionne tous les mardis et tous les jeudis de toute l'année.
Ah bah d'accord.
Waouh.
On visionne donc, ça commence à 18h, au Centre National du Cinéma qui se trouve à Denfert-Rochereau. On voit un film, ensuite il y a un débat.
Vous êtes combien?
Alors on est 27.
27 à regarder le film en même temps.
En même temps, et je vais vous dire d'où viennent ces 27 après. Donc on est 27 à regarder le film en même temps, ensuite il y a un débat, et puis là on vote à bulletin secret, et donc il en sort, soit 27. À tout public, soit etc.
Et donc c'est à la majorité le vote.
Il faut qu'il y ait au minimum 14 personnes.
Oui. Bah oui.
D'accord.
Et après le vote, après bon, s'il y a une majorité pour.
Voilà, bon après. Oui. Ok.
Ensuite, on dîne au CNC.
Sympa.
Et ensuite, on revoit un deuxième film. Et d'accord. Puis redébat, si bien qu'on rentre à 6h et on sort à minuit.
D'accord.
Et on n'a absolument
deux fois
pas
par semaine.
C'est deux fois par semaine, mais je vous assure, on est trois de l'Union nationale des associations familiales. On est trois membres, un titulaire et deux suppléants. Moi, je suis suppléant pour l'instant. Donc on tourne.
Ouais, oui.
Parce que sinon,
des films qui sont particulièrement casse-pieds.
Extrêmement chiant. Oui, oui.
Et puis du coup, c'est que les films violents.
Ah oui. Bah oui.
Oui, c'est là où ils ont un doute. Enfin, violent ou en tout cas, à caractère propagande.
La violence ou
la propagande
de la sexualité.
Ouais. Ah oui, d'accord.
C'est très, très.
Ah d'accord.
Ah oui. Alors donc, ces 27 personnes, elles proviennent de plusieurs collèges. Il y a celui des administrations. Ils sont des représentants. Il y a un représentant du ministère de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation nationale, de la famille.
Qu'est-ce que c'est surveillé ?
Il y a celui des professionnels du cinéma. Alors il y a des producteurs, il y a des critiques cinématographiques.
Oui.
Alors les producteurs, bien évidemment, à chaque fois je les vois, ils poussent pour qu'il n'y ait pas d'interdiction du tout.
Bah oui, bien sûr.
Ensuite, il y a le collège des experts, dont je fais partie, où il y a donc les spécialistes en sciences humaines, du centre médical, et puis des gens de l'Union nationale des associations familiales. Et le quatrième collège, c'est celui du jeune public. C'est des jeunes qui sont âgés de 18 à 24 ans. Ils sont très sympas. Trois d'entre eux sont proposés par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, de la famille. Le quatrième est choisi sur la liste des candidatures dressées par le président du CNC.
Ok.
Donc, si on est au moins 14,
ça
on peut délibérer,
pas, hein.
On vote à bulletin secret, et puis ensuite, on est tenu à la confidentialité absolue, c'est-à-dire on n'a pas le droit de dire comment ça s'est passé.
Donc, si c'est en dessous de 14, le film passe pas, terminados, poubelle.
On est reconvoqué.
Une autre fois. S'il n'y a pas 14 personnes.
S'il y a 14 personnes, ça ne s'est jamais produit.
D'accord. Non, mais si je veux dire, pardon, si le film ne passe pas le vote, pas la majorité.
Non, le vote, il est pour ou contre, quoi.
Si il est pour ou contre.
Oui, si dire, voilà, qui, donc, s'il est contre,
il est contre. S'il est contre, il est contre.
Qu'est-ce qu'il fait avec son film?
S'il est contre, s'il est contre quoi?
Il ne peut pas le sortir.
Ah ben, s'il est contre la publication du film.
Non, ça va être, par exemple, interdiction au moins de 18 ans, ce qui est le truc le plus.
Ah, voilà, vous donnez.
D'accord.
On vote en mettant sur le biais avertissement.
D'accord.
Qui doit être obligatoirement mentionné devant les salles de cinéma.
Ou bien moins. Ou alors 10, les interdits.
Mais il peut arriver qu'un film soit interdit à un moment donné d'être publié.
Non, parce que sinon le comité, l'instance au-dessus, l'aurait déjà.
C'est eux qui le font, d'accord. Oui. Et c'est vous qui affinez
après, c'est juste
le mentions.
Lorsque
le comité ne s'est pas prononcé unanimement,
c'est ça.
Ça redescend
au comité, à la commission de classification. Alors, si une fois que le vote a eu lieu. Donc c'est transmis au ministère de la Culture et là il peut y avoir un recours, c'est-à-dire que le réalisateur ou le producteur peut estimer qu'il n'est pas d'accord avec ça et à ce moment-là donc une deuxième commission de classification est convoquée avec des personnes différentes de façon à ce qu'il y ait
Notre regard.
Le rappel.
Ouais.
Voilà. Alors, ce qui est très curieux, c'est que ce dispositif n'existe que depuis 1975. Avant, c'était une commission de contrôle qui était directement gérée par le ministère
de l'éducation ou de la culture.
Et donc, maintenant, c'est donc deux dispositifs complètement indépendants. On est un des seuls pays du monde où on délègue comme ça des commissions. L'Australie le fait aussi. Et aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas d'interdiction, mais avant 17 ans, tous les enfants qui vont au cinéma doivent être accompagnés d'un adulte.
Quel que soit le film.
Quel que soit le film.
Pour aller voir, mettons, Le Roi Lion, Babar.
Pour Le Roi Lion, faut comprendre les personnages et tout.
Ça peut devenir vite humiliant.
Donc,
ils doivent se tenir la main.
Alors donc, après, il y a eu en 75, il y a eu une évolution à partir de 75 aussi sur le contenu des scènes de violence ou le contenu des scènes de sexualité. Avant, quand il y avait une scène de sexualité qui pouvait être explicite, mais interprétée, mais pas vécue réellement, la commission de contrôle pouvait prononcer une interdiction, moins de 10, moins de 7, moins de 18. Mais depuis 1975, maintenant, il peut y avoir plusieurs scènes explicites de sexe ou de violence répétitive, sans qu'il y ait de problème, parce qu'on estime que c'est l'auteur qui a voulu les mettre, donc il y a une raison artistique, entre guillemets, derrière.
Voilà. D'accord. Pourquoi entre guillemets?
Parce que quand on voit certains films où il y a une accumulation de violence, on se demande vraiment pourquoi.
Où ils font artistique, quoi.
Et qu'est-ce qu'il y a derrière?
Oui, bien sûr, le message.
Moi, j'ai vu récemment un film qui m'a mis tellement mal à l'aise que je ne me voyais pas du tout en train de le mettre pour tout public. Quoi. C'est impossible. Quoi.
Lequel?
Il n'a pas le droit de dire.
Je voulais voir, c'était un test. Je voulais tester tout ça.
Allez, on va manger.
Alors c'est très intéressant d'échanger pendant le repas avec
les gens
du collège, parce qu'on a des approches complètement différentes. Voilà.
Merci beaucoup.
J'ai oublié de dire, une fois que c'est monté au ministère de la Culture, il a son fameux visa d'exploitation, numéro, etc.
Le fameux. Est-ce qu'il y a d'autres choses à part le visa d'exploitation, des petites choses, des trucs qui apparaissent? Et c'est vrai qu'on a l'habitude de voir, et puis Dolby, tous ces trucs-là, trucs?
Non, ça c'est de la technique.
C'est technique, d'accord, c'est juste de la...
Et moi, maintenant que membre, je suis chargé de contrôler, quand je vais au cinéma, si le film est interdit au moins de 10 ans, qu'il y a bien... quelqu'un qui vérifie s'il y a un avertissement, si l'avertissement est bien spécifié.
Donc t'as une plaque, de police, chose.
C'est la police du cinéma.
C'est ça. C'est le Michelin du cinéma. C'est super. Quels sont est-ce que tu as des avantages? Alors j'imagine que tu payes pas
au cinéma.
Alors j'ai une carte qui me permet d'aller dans tous les cinémas de France gratuitement.
C'est incroyable.
C'est énorme.
Au moins 1000 euros d'économie par an.
Est-ce qu'il y a ta photo?
C'est quoi cette question?
Non, parce que sinon on n'aurait pas à avoir.
Ah oui, ça ressemble à quoi?
Collectif du partage des séances de cinéma.
Ils sont embêtants sur.
Une carte
de police.
C'est très officiel.
La photo est de quelle année en revanche?
De celle que j'ai trouvée. Il n'a pas eu que je fasse mon dossier.
En tout cas, je ne peux pas aller à ta place.
C'est RFID, il y a une puce ou c'est. Non, c'est juste. C'est purement. C'est un plastique.
Et dans les musées. Par exemple, quand il y avait l'exposition sur la saga des grands magasins, comme il y avait des œuvres cinématographiques qui sont projetées, je peux y aller gratuitement aussi.
D'accord.
C'est génial.
C'est bien.
Et comment t'as été? Comment ils t'ont trouvé?
De ton travail.
Alors, comme je fais
sur Radio VC ou rassure-nous.
je fais des chroniques.
L'UFAL.
L'UFAL, toutes les semaines. Donc, c'est monté jusqu'au niveau de l'UNAF. Ouais. Et puis, comme ils cherchaient
un
troisième larron, parce qu'il y en a un qui est parti.
Il faut les trouver, ceux-là.
Trois mandats. Elle m'a dit, faites votre candidature, je l'ai faite.
Et puis voilà, c'est génial. Bah, écoute, c'est très bien, bravo.
Ouais, félicitations.
Parfait, ouais.
Bon, ben merci, on a un super spécialiste autour de la table. Alors, c'était déjà le cas avant que tu aies cette carte, mais là, maintenant, c'est officiel. Ouais. On a un super spécialiste de la critique cinématographique. Merci beaucoup, Alain. Merci à tous et à toutes. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain, 8h. C'était Jonathan Denuy sur Radio VCE.